Nous entrons dans une période de l'année qui est particulièrement inspirante, encourageante, stimulante. Dieu l'a voulu ainsi pour son petit peuple, parce qu'on est en marche vers la vie éternelle, vers le royaume. On entre dans une période de l'année qui est marquée par le début des fêtes printanières que Dieu a décrétées dans son plan. Et cette période correspond au début de l'année sacrée. Dieu est un Dieu logique, il ne fonctionne pas à peu près. Les premières fêtes de l'année, dans le cycle des sept fêtes, commencent tout de suite après le début de l'année sacrée. Il y a des raisons pour ça, et Dieu est un Dieu d'ordre. Cette période correspond donc au début de l'année sacrée, au début des 12 mois selon le calendrier de Dieu. Nous, on a un calendrier qui est fait par les hommes, mais Dieu a son propre calendrier avec ses mois, avec les noms de ses mois, et il nous dit quand est-ce célébrer ses fêtes, et ainsi de suite. Alors, on va bientôt, même très bientôt, célébrer la Pâque et la fête des pains sans levain. Ça, c'est les deux premières fêtes dans le plan de Dieu. Les deux premières des sept fêtes divines qui décrivent l'ensemble de son plan. Dieu n'a pas fait des fêtes sans but, juste pour avoir une célébration quelconque. Chaque fête a une signification très précise, très spécifique, et ça décrit une étape dans son plan de salut pour l'humanité. Alors, c'est pour ça que pour nous qui sommes appelés maintenant, on n'a pas mérité, mais Dieu nous a appelés, nous, maintenant, à changer. C'est pourquoi c'est tellement une époque enthousiasmante de l'année, parce qu'on entre à nouveau dans ce qui nous rappelle notre cheminement chrétien, ce qu'on a à faire, ce que Dieu fait pour nous, ce qui s'en vient. Maintenant, il y a deux éléments de ces fêtes, avant d'aller plus loin dans le message, sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Allez dans Exode chapitre 12. Au début de la Bible, le livre d'Exode, au chapitre 12. On sait qu'à ce moment-là, la nation d'Israël était en Égypte. Ça faisait plusieurs centaines d'années. Et Dieu se préparait à les sortir d'Égypte, à les libérer. Alors, Exode 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ils étaient encore en Égypte à ce moment-là, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » C'est pour ça que je vous disais, selon le calendrier de Dieu, ça commence à cette époque-ci de l'année. « Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Bon, alors Dieu donne ensuite, je ne vais pas lire tous les versets, mais Dieu donne ensuite l'ordre d'immoler un agneau parfait, représentant le sacrifice du Christ qui allait être offert plus tard, plusieurs centaines d'années par après. Verset 5, il dit, « Ce sera un agneau sans défaut, l'agneau que vous choisirez. » Il parlait aux Israélites à ce moment-là. « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. » Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Dieu est exactement précis. À un moment précis, la Pâque devait être célébrée. Et après, il dit, on prendra du sang de cet agneau et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain, voyez-vous, et des herbes amères. Alors, maintenant, j'arrive au verset 11, le premier point sur lequel je vais attirer votre attention. Verset 11. « Quand vous le mangerez, cet agneau-là, c'était la première Pâque de toutes les Pâques qu'il y a eu, vous aurez vos reins sains. » Ça veut dire que vous serez déjà vêtus, habillés, prêts à partir. « Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, le bâton de marche. » Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Alors, c'est la première fois que la Pâque a été célébrée. C'est un décret que Dieu a donné, ça fait partie de ses lois, en fait, de ses ordonnances. Alors, le premier élément des fêtes du printemps sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le fait qu'il y a une hâte. Il dit, vous le mangerez à la hâte. Ça indique quelque chose. Ça indique l'importance majeure de la situation associée avec le fait de prendre la Pâque. Ça indique qu'on ne doit pas la prendre à la légère. C'est quelque chose sur laquelle on doit concentrer notre attention. pour l'apprécier et faire les choses comme Dieu veut qu'on le fasse. Ça veut dire aussi une urgence liée à la situation. Parce que quelques heures plus tard, Dieu allait les faire sortir d'Égypte, allait les protéger, les amener en dehors du pays où ils avaient été esclaves pendant plusieurs centaines d'années. Alors, il fallait qu'ils soient prêts. Il fallait qu'ils se hâtent de faire les choses que Dieu leur demandait de faire. Parce que ça préparait un départ qui allait s'effectuer pour toute la nation d'Israël. C'est ça le contexte. C'est important qu'on le voit, là. Et c'est pour ça qu'il dit, vous allez être prêts, vous allez être déjà vêtus, prêts à partir, vos souliers aux pieds. Ça s'appliquait, bien sûr, physiquement à l'époque pour cette Pâque-là. Et il dit, vous allez le manger à la hâte. Vous allez considérer que c'est une chose importante. Vous aurez mis le sang sur la porte et les linteaux. Et on sait par l'histoire que les maisons où il y avait le sang sur la porte de leur maison, Dieu a passé par-dessus, Passover en anglais, et il n'y a pas eu de mort dans ces maisons-là. Ce qui était différent pour les maisons où il n'y avait pas le sang de l'agneau, ceux qui ne l'avaient pas fait, et pour les Égyptiens qui ne l'avaient pas fait, bien sûr. C'était surtout pour eux. Bon, deuxième point. Le deuxième point, on vient de voir qu'il est question de levain. Alors, le deuxième point, c'est que pendant cette période-là de la fête des pains sans levain, à partir de la Pâque, c'est qu'on doit sortir le levain de nos maisons. Eux devaient faire la même chose, et nous, on le fait encore aujourd'hui. Et ça a un symbolisme spirituel très important. Sortir le levain de nos maisons, et pendant les 7 jours de la fête des pains sans levain, qui suit la Pâque, on doit manger du pain, mais sans levain. Alors, on doit remplacer le pain levé par du pain sans levain et manger un peu de pain sans levain chaque jour. Ça fait partie du commandement et il y a des raisons précises pour ça. Regardez 14 et 15, les versets 14 et 15 ensuite. Il dit, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Alors, nous, on célèbre encore cette fête-là. Bien sûr, on n'offre plus l'agneau parce que l'agneau parfait de Dieu est venu. Il a donné sa vie, ça c'est fait. Donc, on a pu offrir un petit agneau comme sacrifice. Il dit, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. » Voici la directive qui leur était donnée à eux aussi, comme à nous aujourd'hui. « Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. » Donc, c'est une décision qu'on doit prendre une fois qu'on connaît les voies de Dieu, on connaît ce que Dieu nous dit de faire. C'est une décision qu'on doit prendre pour plaire à Dieu, pour faire sa volonté, être proche de lui. Le titre du message aujourd'hui, notre empressement envers les fêtes du printemps. Notre empressement envers les fêtes du printemps. Qu'est-ce que ça veut dire s'empresser? Ça veut dire se hâter, comme on vient de voir, à la hâte. Voyez une urgence là-dedans, faites-le comme il faut et soyez entièrement prêts à ce qui s'en vient. Ça veut dire se dépêcher. Ça veut dire avoir du zèle dans ce qu'on fait. Et pour avoir du zèle dans ce qu'on fait, il faut y mettre notre cœur. Hein? Quelqu'un qui aime, par exemple, beaucoup, beaucoup son travail ou qui est en train de réaliser un projet qui lui tient à cœur, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle a du zèle. Elle s'applique, elle s'implique là-dedans à fond. Parce qu'elle aime ça. Pour elle, c'est important. Alors, pour vous et pour moi, la Pâque est importante et les pains sans levain sont importants. Et on doit avoir cet empressement-là. C'est-à-dire le sentiment d'urgence qui inspire le zèle à faire ce que Dieu nous dit de faire. Simplement savoir ce que Dieu nous dit de faire, ça ne nous assure de rien sinon de l'échec. Parce que Dieu veut voir ce que nous faisons avec ce qu'il nous demande de faire. Alors, l'empressement, dans ce sens-là, ça veut dire une ardeur à éliminer le mal de nos vies, à vivre selon les voies de Dieu, une diligence, un zèle. Et l'empressement, c'est simplement le contraire de la lenteur. Ça presse pas pour changer. Ou ça presse pas pour faire vraiment tout ce que Dieu demande. J'en fais une partie, puis ça me donne humainement l'impression d'être en bon terme avec Dieu, de plaire à Dieu, que je suis correct avec Dieu, que je suis en train d'avancer. Si ma réaction est comme ça, je ne plais pas à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Il a tout donné pour nous. Il n'a pas été à demi-mesure, il a donné son propre Fils. dans des souffrances horribles, pour que chacun de nous, quand on regrette d'avoir transgressé ses lois, qu'on demande pardon, qu'il nous pardonne. Dieu n'est pas allé à mi-chemin. Alors, il veut que ceux qui l'appellent n'aillent pas à mi-chemin non plus. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait encore. Il ne faut pas se décourager. Mais il faut être en train de marcher vers là. Et quand on se trompe, quand on manque notre coup, il faut se dépêcher d'aller demander pardon, puis d'y demander son aide pour reprendre le combat. Quand Dieu voit ça, ça lui plaît. Ça lui plaît. Et on va devoir lutter comme ça jusqu'au retour de Christ. Alors, l'empressement, c'est le contraire de la lenteur ou de la mollesse ou de considérer les choses comme peu importantes, si vous voulez. Il y a deux versets qui décrivent l'empressement ou le zèle ou l'ardeur qu'on doit développer si on veut atteindre le but. Et notre but, c'est quoi notre but? Dieu nous l'a révélé. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui révèle le but de l'existence humaine. C'est pas peu de choses, là. Le but de pourquoi on existe, où on s'en va. Où ça s'en va, les choses? Où les choses s'en vont? Et notre but, c'est d'entrer dans le royaume, d'obtenir la vie éternelle. Parce qu'aucun être humain n'a la vie éternelle. On le sait. Ceux qui pensent avoir la vie éternelle sont victimes du premier mensonge qui a été fait aux premiers êtres humains. Quand Satan a dit à Adam et Ève, « Vous ne mourrez pas. » Dieu a dit, « Vous allez mourir, mais non, vous ne mourrez pas, il vous cache quelque chose. » Dieu vous a menti. Et alors, Satan, son arme préférée, c'est de semer des doutes dans l'esprit des gens, pour les amener à s'éloigner, à voir les choses à leur façon. Alors, Deutéronome chapitre 11. Et on va lire le verset 12, ce qui était dit aux Israélites ici. Et le livre de Deutéronome, c'est le rappel des lois et des ordonnances et des statuts de Dieu. Deutéronome 11, verset 8. Ainsi, et là c'est Dieu qui parle, il s'adresse encore aux Israélites, « Vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez, regardez bien, afin que vous ayez la force. » D'où elle vient la force? Elle vient de Dieu. Mais Dieu nous la donne quand on s'efforce, nous, d'observer ses commandements. On a un rôle à jouer là-dedans. « Afin que vous ayez la force. » De quoi? De vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. À ce moment-là, c'était la terre promise physique. Mais il dit, si vous observez mes lois que je vous prescris, je vais vous donner la force de vous emparer de ce pays-là. Dieu laissait entendre qu'il n'allait pas ouvrir les portes du pays en disant tout simplement, entrez, il n'y a rien à faire. Maintenant, installez-vous, vous êtes chez vous, vous n'avez rien à faire de plus. Non, il y avait quelque chose à faire. Il fallait qu'ils s'emparent du pays. Même, ils ont dû combattre pour s'emparer du pays quand vous lisez tout le contexte. Et nous, pour s'emparer dans le sens du pays à venir ou pour s'emparer du royaume, il y a un combat à mener. Il y a des combats à mener comme eux aussi. Et c'est pour ça que vous irez voir dans Matthieu 11, verset 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est Jésus qui parle, jusqu'à présent, le royaume des cieux, ce qu'on veut avoir, le royaume de Dieu, c'est sa famille, son gouvernement, ce dans quoi on veut entrer. » Naître à nouveau, avoir la vie éternelle. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux, dit le Christ, il est forcé. Il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Avez-vous remarqué? La même expression que quand Dieu a dit « Observez mes lois pour avoir la force de vous emparer du pays. » C'était la terre promise à l'époque. Alors, il nous dit à nous maintenant, sur le plan spirituel, pour avoir la force d'entrer dans le royaume, de faire le chemin pour changer jusque-là, obéissez à mes lois et je vais augmenter ma force en vous, je vais être avec vous pour que vous réussissiez, pour que vous vous empariez du royaume. C'est sûr que c'est lui qui nous le donne, mais il faut faire le travail de vouloir s'en emparer, de le considérer comme important. Ces deux versets-là vont ensemble et sont drôlement encourageants. Comprenez-vous maintenant pourquoi les fêtes de Dieu sont si importantes? Elles représentent son plan et elles représentent aussi les étapes que nous avons à franchir dans notre vie spirituelle, qu'on doit faire confiance à Dieu, croire à sa parole, mais qu'il faut se préparer de tout cœur au début de l'année à célébrer la Pâque et à célébrer la fête des pains sans levain, avec joie, avec enthousiasme, même si c'est exigeant, parce que c'est exigeant pour faire notre ménage des pains. Il faut s'examiner spirituellement, ce qui n'est pas quelque chose qu'on aime à faire au point de départ, mais qu'on doit faire et qu'on doit, je dirais, apprendre à prendre plaisir à faire, parce qu'on sait que ça plaît à Dieu et que ça nous rapproche de lui quand on fait ça. Alors, pour se préparer comme il faut à la Pâque, il faut s'examiner honnêtement pour voir en quoi nous pouvons encore changer. Vous et moi, on a changé des choses depuis que Dieu nous a appelés, mais il nous en reste encore à changer. Je le sais, et Dieu le sait, et Dieu ne vous en tient pas rigueur, mais Dieu vous en tient rigueur si vous ne continuez pas à changer. Et il m'en tient rigueur si je ne continue pas à changer. Alors, il faut que je m'examine honnêtement pour voir ce que j'ai encore à changer, voir ce que j'ai encore à améliorer pour faire mieux. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Voyez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 5 et le verset 7 et 8. Paul dit comment préparer ses fêtes sérieusement et efficacement. Et je vous ferai remarquer que ça a été écrit plusieurs années après la mort du Christ. Alors, ceux qui disent que la Pâque et les pains sans levain sont plus en vigueur, ça défait leur argument complètement parce que les apôtres ont continué à proclamer ces fêtes-là, à les observer eux-mêmes, comme le Christ les avait observées. Verset 7. Verset 7. « Faites disparaître le vieux levain. » C'est ça la fête des pains sans levain que nous, on va commencer à célébrer. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Et ça, c'est l'homme nouveau dont la Bible parle. L'homme nouveau, c'est l'homme changé. L'homme qui a abandonné des façons de faire qui étaient contraires aux lois de Dieu pour les remplacer par des voies qui plaisent à Dieu. Faites disparaître le vieux levain. Et c'est pour ça que symboliquement, il faut sortir ce qui est de produits levés dans nos maisons et les agents qui font lever. On sort ça de nos maisons, on les jette, on s'en dispose, on les met pas dans le cabanon ou dans le garage pendant une semaine pour les ramener après, comme si on faisait ça avec nos péchés, les mettre de côté pendant une semaine puis recommencer à les commettre après. Non, il faut les éliminer complètement, faire ce ménage-là le mieux qu'on peut. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, parce que le Christ, notre Pâque, a été immolé. Et quand on passe par les eaux du baptême, le Christ devient effectivement notre Pâque. Il est mort pour chacun des êtres humains individuellement. Et le jour où on regrette d'avoir causé sa mort en transgressant les lois, le jour où on demande pardon, où on a un vrai repentir, on peut être baptisé. Et à ce moment-là, le Christ devient notre Pâque personnelle. Et il efface tous les péchés qu'on a commis dans le passé. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Et après, Paul dit, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Laissez ça de côté. » Non avec du levain de malice et de méchanceté, comme vous et moi nous avions, et malheureusement que nous avons encore parfois, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et quand on mange le pain qui n'a pas de levain dedans, ça représente la vérité de Dieu, ça représente la pureté à laquelle on veut accéder, ça représente le sacrifice parfait du Christ. 2 Corinthiens 13, juste un peu plus loin. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Ça s'applique aussi aux fêtes du printemps. Examinez-vous vous-même. Et je sais que plusieurs dans l'Église ont déjà commencé à le faire, et c'est bien. Examinez-vous vous-même. On le fait tout au long de l'année, remarquez bien, parce qu'on fait le bilan à chaque semaine un peu, et parfois même à la fin des journées pour voir ce qu'on a fait de bien et de mal pour changer. Mais il y a une saison particulière de l'année où Dieu dit, mettez l'accent là-dessus pour vraiment faire le ménage complet puis examiner là où vous êtes rendu. Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que l'esprit humain ou le cœur humain étant tordu, étant tortueux, comme la Bible dit, on peut, sans s'en rendre compte, se laisser détourner à un moment donné ou ne plus voir les choses qu'on avait vues au début ou commencer à dire, que je vais faire les choses à ma façon, c'est pas correct ce que je vois autour, c'est pas... Alors, on peut s'éloigner à ce moment-là de Dieu sans s'en rendre compte. Alors, Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez désapprouvés? Alors, après avoir été approuvé, ça veut dire une chose, c'est que si on n'agit pas selon ce que Dieu nous demande, si on ne s'efforce pas de marcher dans ses voies, c'est qu'on peut être désapprouvé. De la même façon que si on s'obstine à ne pas pardonner à quelqu'un qui nous aurait fait du tort, et quand je veux dire pardonner, je veux dire pardonner, c'est tourner la page, pardonner, ne plus y penser et ne plus ramener la question. Ça, c'est pardonner. Et être capable de voir la personne, de lui sourire, de lui donner la main, de lui souhaiter des bonnes choses et d'être proche de la personne. Ça, c'est pardonner. Si je ne suis pas capable de faire ça, comment est-ce que je peux prendre la Pâque et demander à Dieu de me pardonner? Le Christ a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, et tôt ou tard, elles viennent ces offenses-là, de toutes parts, de tous côtés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. C'est une condition de départ que Dieu nous donne. Alors, Paul dit, examinez-vous, vous-même, évaluez-vous. Écoutez, on a même besoin de Dieu pour ça, pour être capable de s'évaluer. Puis voir les choses qu'on n'est pas capable de voir de nous-mêmes au point de départ. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a montrées, par exemple, au cours de la dernière année, que je n'avais pas vues auparavant. Et je suis content qu'il me l'ait montré, même si ça a été parfois difficile. Parce que ça veut dire qu'il nous aime. Quand Dieu fait ça, qu'il nous montre des choses qu'on a à changer, c'est parce qu'il nous aime. Quand on corrigeait nos enfants puis qu'on leur disait « Vous ne faites plus ça parce qu'il y a un danger pour vous », c'est parce qu'on les aimait, c'est pas parce qu'on les aimait pas. Alors Dieu fait la même chose avec nous. Il nous montre les choses qu'on a à changer. Et ça doit lui être demandé, dire à Dieu « Montre-moi les choses que j'ai à changer. Puis aide-moi à voir les choses que je vois peut-être pas encore. » J'enlève le peut-être. Aide-moi à voir les choses que je ne vois pas encore. Et il va le faire graduellement. Heureusement, Dieu est bon. Il ne nous montre pas tout d'un coup ce qu'on a à changer. Ce serait décourageant. Mais il va graduellement. Mais comme tout nous vient de lui, on peut lui demander et il nous répond. On peut lui demander un peu comme David faisait. Vous irez voir dans le psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12, David qui avait commis de grands péchés, comme vous et comme moi, David a dit à Dieu, « Dieu, crée en moi un cœur pur. Hein, travaille mon cœur humain, là, qui est croche, qui est tordu, qui est tortueux, comme dit la Bible. Travaille-le, sculpte-le, modèle-le selon ce que toi tu veux. Crée en moi un cœur pur, que je sois honnête devant toi, que je sois capable de reconnaître mes fautes, que j'ai la force de le faire, puis que j'ai la force de tourner la page, de te demander pardon, et ensuite de laisser ça en arrière. » Et David disait aussi à Dieu, « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, avoir une bonne disposition de cœur. On peut aussi demander ça à Dieu. Parce que c'est pas évident. Humainement, on tient à nos choses, puis il y a des choses qu'on veut pas voir ou qu'on veut pas admettre. Mais on peut dire à Dieu, « Montre-moi, puis aide-moi à avoir la force d'admettre ce que je dois admettre. De m'en remettre totalement à toi, puis d'être pardonné. » Ça, c'est le zèle. Ça, c'est l'empressement dont je vous parlais au début. Pour célébrer les fêtes de Dieu d'une façon qui lui plaise. Et Dieu, à ce moment-là, manifeste sa bonté. Et sa bonté, vous irez voir dans Romains 2, verset 4, c'est une chose qu'on peut lui demander, que moi, dernièrement, je lui ai demandé encore plus. Dans Romains 2, verset 4, c'est écrit que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. On voit l'aspect de la bonté de Dieu. Il ne nous prend pas de cours. Il n'essaie pas de nous piéger. Mais dans sa bonté, il nous fait voir ce qu'on a à changer. Il nous pousse dans une certaine direction. Mais remarquez bien, il ne nous force pas. À tout moment, je peux dire non. Il ne nous force pas. Il nous pousse à nous repentir. Alors, donc, le repentir, ça vient de Dieu aussi. On doit lui demander qu'il nous donne la force de faire ça. Et je vais vous montrer quelque chose d'important maintenant. C'est que le repentir, là, c'est la base de votre vie chrétienne et de ma vie chrétienne. C'est le point de départ. Je vais vous le démontrer rapidement. C'est le point de départ de votre conversion. Parce qu'une conversion, ça veut dire changer. Et se repentir, ça veut dire regretter d'avoir fait les choses contraires aux lois de Dieu et vouloir changer. Alors, comprenez-vous pourquoi le repentir, c'est le début de la conversion? C'est le commencement du cheminement vers la vie éternelle. Le repentir, c'est le début de notre transformation. C'est le début du chemin pour que Dieu nous pardonne. Si je ne me repens pas de mes fautes, Dieu ne me pardonne pas mes fautes. Aussi simple que ça. Et jamais personne ne pourra mettre Dieu échec et mat en refusant, à la limite, de se repentir de ses fautes ou de regretter ses fautes. Et de vouloir changer en disant, Dieu, tu peux pas me toucher, moi, j'accepte pas ça. Non, Dieu n'acceptera pas ça. Dieu aura compris quelque chose à ce moment-là, c'est que la personne refuse le salut, tout simplement. Refuse de lui obéir. Et le repentir, c'est d'ailleurs le fondement du message de l'Évangile. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu comme ça. C'est le fondement du message de l'Évangile. Rappelez-vous, vous irez voir dans Marc 1, versets 14 et 15. Vous irez voir Marc 1, versets 14 et 15. C'était le début du ministère du Christ. Quand il a commencé à prêcher, quand il a commencé à annoncer l'Évangile, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le temps est accompli. Oui, il y avait une période qui était très importante parce que l'agneau de Dieu était là. Ce temps-là était venu que l'agneau de Dieu soit sur la terre, qu'il vienne offrir sa vie en sacrifice pour nos fautes. Alors, il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Ben oui, le roi de ce royaume-là, le Christ lui-même était là. Alors, le royaume était proche d'eux autres, dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il nous dit quoi faire. Première chose, il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le repentir, c'est le fondement du message de l'Évangile, que c'est la base de votre cheminement chrétien vers la vie éternelle. Première chose que le Christ a dit quand il a commencé à annoncer son message, il faut que les êtres humains se repentent, regrettent d'avoir transgressé les lois de Dieu, demandent pardon, soient baptisés, ça implique tout ça, reçoivent le Saint-Esprit, croient à la bonne nouvelle du retour de Christ et de l'établissement d'un merveilleux monde à venir. Alors, voyez-vous que c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre au sérieux. Luc, chapitre 13. Luc, 13e chapitre. À partir du verset 3, c'est le Christ qui parle ici. Il dit, « Je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Ça fait partie du message de l'Évangile, c'est le point de départ. Ou bien, et là il donne un exemple d'un accident qui était arrivé et sur lequel les gens essayaient d'argumenter pour dire, « Bien, les gens auxquels cet accident-là est arrivé étaient sûrement méchants, très méchants. » Le Christ dit, « Non, non. » Ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Il dit non. Non, non. Parce que tous les êtres humains sont coupables d'avoir transgressé toutes les lois de Dieu. Tous les êtres humains sont coupables envers Dieu. Christ dit non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est le choix qui nous est offert. Et se repentir, juste pour préciser un peu plus, se repentir, c'est être profondément attristé d'avoir transgressé les lois que notre Père nous a données, d'avoir ainsi causé la mort de notre Créateur, parce que c'est le Christ qui nous a créés. C'est pas Dieu qui nous a créés lui-même, il nous a créés par le Christ. Alors, par nos fautes, on a causé la mort de notre Créateur, de celui qui nous a donné la vie. Et quand on se repent, on regrette d'avoir causé ça et on demande pardon de ça. Et se repentir, on regrette profondément aussi d'avoir fait du mal aux autres et de s'être fait du mal à soi-même. Parce que toutes les transgressions des lois de Dieu impliquent des conséquences négatives, soit pour les autres, soit pour nous, soit pour les deux, en plus d'avoir causé la mort du Christ et d'avoir été une offense envers notre Dieu. Vous savez, comme on n'est pas encore parfait, je ne vous apprends rien, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous marchons vers la perfection. Nous voulons développer le caractère de Dieu. Mais parce que nous ne sommes pas encore parfaits, il nous arrive malheureusement parfois encore de tomber, de pécher. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible nous le montre clairement. Et c'est encourageant. C'est qu'on doit se repentir, regretter, aller tout de suite demander pardon. Et après, M. Appartient a insisté beaucoup là-dessus, tout de suite après, travailler à ne plus commettre cette même faute. Travailler à ne plus commettre cette même faute. Ça, c'est une partie de la directive qu'on est porté parfois à oublier. Mais ça fait partie de demander pardon. Il faut absolument travailler à ne plus commettre cette faute-là. Et jusqu'au retour du Christ, nous allons devoir ainsi être transformés jusqu'au jour où on sera transformé complètement en être spirituel et où on sera capable, à ce moment-là, parce qu'on sera rempli totalement du Saint-Esprit de Dieu, qu'on sera capable de ne plus jamais transgresser les lois de Dieu. Wow! Vous savez comme qui? Comme celui qui les a jamais transgressés. et qui s'appelle le Fils de Dieu et qui est notre exemple et qui vit dans ceux que Dieu appelle et qui sont baptisés, qui ont reçu son esprit et qui vit avec ceux qui sont appelés pour le moment et qui s'en vont vers le baptême parce qu'il les considère comme précieux dans une catégorie à part. Alors, je résume maintenant, et c'est fantastique quand on voit ce que c'est vraiment de se convertir. C'est de se repentir, c'est la conversion, c'est de changer de cap, changer de direction, c'est ça se repentir. C'est d'abandonner de plus en plus au cours des semaines, des mois, des années, jusqu'à totalement notre ancien mode de vie. On n'y arrive pas tout d'un coup, mais il faut s'y appliquer puis continuer. Et c'est quelque chose d'intérieur. Ça doit commencer à l'intérieur de nous. Il doit y avoir des choix qui se font, des décisions qui se prennent, des supplications à Dieu pour nous donner la force d'arriver à faire ce qu'il faut. Mais ça vient de l'intérieur. Ça commence avec un changement de cœur. Et le repentir est accompagné d'un changement de cœur, d'un changement d'attitude. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, après le livre d'Osée, Joël, chapitre 2, et le verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Et vous savez, quand le début de l'année sacrée arrive chaque année, et quand on approche de la Pâque et des pains sans levain, c'est le temps de réaliser, puis on en a tous besoin, de revenir davantage à Dieu, parce que sans s'en rendre compte, on s'est tous un peu éloignés. Il y a des choses qu'on a encore à régler. Pas se décourager, mais revenir à Dieu. Et si on revient à Dieu, lui va revenir à nous encore plus puissamment. C'est une promesse. « Revenez à moi et je reviendrai à vous », c'est ce qu'il dit dans d'autres endroits. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Comment? Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Parfois, il faut supplier Dieu de nous donner la victoire sur telle chose ou de bénir telle ou telle situation. Avec des jeûnes. Et c'est pas rare, c'est toujours une chose excellente pour les membres de l'Église, avant les fêtes du printemps, de procéder à des jeûnes. Parce que comme on a vu dans un récent message, les jeûnes sont associés au repentir. Ça fait partie de nos fêtes. Ça fait partie des fêtes qu'on doit célébrer et de la façon de les célébrer. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Et il se repent des maux qu'il envoie. Voilà l'encouragement que Dieu nous donne. Et c'est important de s'en tenir à ça. De garder le cap sur ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous enseigne, les encouragements qu'il nous donne. Psaume 34 maintenant. Commençons à lire le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est pas celui qui est parfait. C'est celui qui s'efforce de marcher dans la justice de Dieu. Et dans le texte original ici, c'est plus précis. Au lieu d'être le malheur atteint souvent le juste, c'est nombreuses sont les afflictions de celui qui pratique la justice. Nombreuses sont les afflictions de celui qui pratique la justice. Ça, c'est la déclaration que Dieu fait au point de départ. Mais regardez. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il continue, celui-là, à vouloir pratiquer la justice de plus en plus et de mieux en mieux. Et c'est pour ça que l'Éternel le délivre toujours, quelles que soient les circonstances et quelle que soit parfois la difficulté de certaines situations. L'Éternel l'en délivre toujours. Et ça correspond, vous pourrez aller voir Luc 14 et le verset 26. Luc 14 et le verset 26. Le Christ dit ceci. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est pour ça que je vous disais tantôt que Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Dieu, lui, a tout donné pour nous. Et quand on s'est engagé envers lui au moment de notre baptême, on a pris l'engagement de le suivre, lui, quelles que soient les circonstances. Pas suivre les autres autour qui disent ceci ou cela, ou qui ont telle opinion, ou qui ont telle chose à faire circuler, mais de suivre ce que Dieu dit. La démarche chrétienne qu'on doit faire, la démarche de miséricorde, la démarche de fidélité envers Dieu, la démarche d'harmonie dans sa petite famille, d'unité. Alors, au moment du baptême, et je sais, je me rappelle, envers ceux que j'ai baptisés, à chaque fois j'ai utilisé ce passage-là avant de les baptiser. C'est le cas de certains qui sont ici aujourd'hui. J'ai dit aux personnes, on va lire ensemble ce passage-là. L'engagement que vous allez prendre aujourd'hui, au moment de votre baptême, au moment où je vais vous plonger dans les eaux du baptême, il faut que vous soyez prêts à renoncer à tout et que Dieu soit, à partir de maintenant, le premier dans votre vie. Si il y a des choses contraires qui viennent d'à côté, que ce soit des amis, de la famille ou même des gens à l'intérieur du groupe de l'Église, il faut que vous, vous suiviez la voie qui vous est tracée. C'est ce qui est mentionné ici. Il dit, si quelqu'un d'autre vient avant moi, avant Dieu, il n'est pas digne d'être mon disciple. Et à ce moment-là, on risque, comme Paul disait, d'être désapprouvé, d'être mis de côté. C'est triste. Mais si la Bible en parle, c'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent arriver. Et regardez le verset 19 du même psaume 34 ici. « L'Éternel est près, tout proche, de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ça ne veut pas dire de ceux qui sont découragés et qui n'ont pas d'espoir ou quoi que ce soit, non. Avoir l'esprit abattu, on voit par d'autres versets bibliques, c'est justement d'être attristé, d'avoir causé la mort de Christ, d'être attristé, d'avoir transgressé les lois de Dieu, d'avoir fait le mal dans notre vie avant d'être baptisé. Et après d'être baptisé, quand ça nous arrive encore, d'être encore attristé de ça, se dépêcher à demander pardon et travailler à changer. Dieu dit, l'Éternel y est près, il est tout proche de ceux qui ont ce cœur-là, qui ont cet empressement-là à enlever le péché de leur vie, à enlever les transgressions de leur vie. Parce que vous savez, au baptême, on a fait une chose, et j'ai fait la même chose, et je ne veux jamais reculer. J'ai fait la même chose parce que les mêmes conditions m'ont été posées. Et c'est pour ça qu'on prend le temps, avant de baptiser quelqu'un, de lui aider à bien comprendre l'engagement que cette personne-là va prendre. Parce que c'est un engagement définitif. C'est pas un jeu. Et c'est pour ça qu'on a la responsabilité de bien faire comprendre aux gens, de les encourager, mais bien faire comprendre aux gens, de sorte que quand ils sont baptisés, ils connaissent les conditions, et en même temps, ils savent qu'ils peuvent compter sur Dieu, qui va les amener à terme. S'ils sont fidèles, s'ils restent fidèles. Mais tout ça pour dire qu'au moment de notre baptême, on a fait ce qu'on appellerait une capitulation totale. On s'est rendu à Dieu totalement. Comme M. Armstrong a fait, dans le fond. M. Armstrong a dit à Dieu, écoute, je suis rien, j'ai causé la mort de mon sauveur. Si tu veux m'utiliser comme tu juges à propos, fais-le. Je t'appartiens. Moi-même, je ne suis rien, je n'ai aucune valeur. Et c'est la même chose pour nous. Capitulation totale et inconditionnelle. On n'a pas de condition à poser à Dieu. On n'a pas de condition à poser à Dieu. On ne peut pas dire à Dieu, ou même sans lui dire, dans nos actions, en disant, je vais obéir à un certain nombre de tes directives, mais telle autre directive, ça, c'est ma vie privée. Touche pas à ça. Touche pas à mes finances, ou touche pas à ma vie sexuelle, ou touche pas à certains domaines que j'aime à faire autrement que ta loi dit. Ça, ce n'est pas appartenir à Dieu. Si on appartient à Dieu, on fait face à ces réalités-là, on a tous eu ces genres de situations-là concernant un ou l'autre des commandements de Dieu, il faut l'affronter, il faut y faire face pour que notre capitulation, elle soit réelle, et elle soit totale, et elle soit inconditionnelle. Inconditionnel. Quand les Japonais se sont rendus aux Américains après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas posé de conditions. Ils ont signé le traité en bas. Le Japon se rendait. Il se rendait compte qu'il ne pouvait pas continuer la guerre et il admettait qu'il devait accepter la paix. Et quand on signe dans le sang de Christ, c'est ça, le contrat de l'Alliance, C'est une alliance de paix aussi avec Dieu, d'harmonie avec Dieu, d'être un avec lui et de développer d'être un avec ses enfants par la suite. Bien sûr, on est humain, on est charnel, on est encore soumis à nos convoitises, aux influences de Satan, des autres alentours, des circonstances, et il nous arrive tous, un jour ou l'autre, de faiblir. On n'est pas encore rendu. Il nous arrive tous d'être moins zélés à un moment donné, moins engagés, moins soumis. Il y a des circonstances qui font que ça nous éloigne ou qu'on voit moins bien. Et parfois, nous, par notre faute, on s'éloigne en priant moins, en jeûnant moins, en étudiant moins. Et parfois, les gens sont surpris de dire, « Mais il me semble que Dieu ne me répond pas, il me semble que je comprends moins. » Oui, mais est-ce que vous avez prié chaque jour? Est-ce que vous avez continué d'étudier? Est-ce que vous avez jeûné régulièrement? C'est tout simple. M. Meredith nous en parle souvent, mais c'est la base, c'est le fondement du fait d'être proche de Dieu. Alors, il nous arrive tous, donc, de faiblir parfois, d'être moins zélé, d'être moins ardent. Il nous arrive tous d'avoir des doutes. Et rappelez-vous, c'est une des armes préférées de l'adversaire, de semer des doutes, quelle que soit la sorte de doute, sur n'importe qui autour, sur l'Église, sur qui vous voudrez. C'est l'arme préférée, je pense qu'on peut dire ça, l'arme préférée de Satan. Ça a été l'arme qu'a utilisée la première contre Adam et Ève. Il a semé un doute contre Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Dieu, autrement dit, Satan a dit à Adam et Ève, dans le fond, Dieu est menteur. C'est ça. Il a dit, Dieu est menteur, il ne vous a pas dit la vérité. Et Satan continue à utiliser la même méthode, exactement. Il nous arrive parfois d'avoir des moments de découragement. C'est humain. Ce n'est pas une faute. Il nous arrive parfois d'avoir peur de ne pas arriver au but. Je peux vous dire une chose. Si vous avez peur de ça, vous avez raison. Et s'il m'arrive d'avoir peur de ça, j'ai raison d'avoir peur de ne pas arriver au but. Parce que moi, je ne peux pas y arriver. Mais il y en a un qui dit qu'il va me rendre au but si moi, je suis persévérant et si je m'applique à le supplier, à jeûner, à prier, à faire sa volonté, à changer. Il dit qu'il va m'amener au but. À ce moment-là, quand ça nous arrive, il faut se rappeler la grandeur de notre appel unique. Dieu ne nous a pas appelés pour rien. Dieu appelle un tout petit troupeau maintenant, c'est pas inutile, c'est pas sans but. Il y a un but bien précis, comme ces fêtes arrivent précisément, comme l'année sacrée arrive précisément, comme les prophéties se réalisent précisément. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est précisément pour l'amener à terme, si la personne ne refroidit pas et ne se détourne pas, ne se laisse pas embarquer dans des doutes ou des accusations ou quoi que ce soit, ou ne cesse pas de lui plaire. Il faut se rappeler la grandeur de notre appel qui est unique. Il faut se rappeler, c'est pour ça que j'ai mentionné ça tantôt, il faut se rappeler notre engagement. On a dit à Dieu, moi je me rappelle, il n'y a pas de circonstances qui doivent m'éloigner de toi ou me détourner de toi. Même si c'est difficile, il faut que je continue, donne-moi la force. Et je veux encore le faire. C'est un peu comme Josué, hein? Quand Josué a dit, moi et ma maison, nous allons suivre l'Éternel. Vous autres, faites ce que vous voulez. C'est comme M. Armstrong avait dit à un moment donné aussi, quand il y a plein de monde qui l'accusait dans l'Église et quand on a fait toutes sortes de choses pour l'éliminer et l'enlever de là, M. Armstrong a dit, si je dois être le seul à terminer cette œuvre-là, je vais la terminer seul. J'ai un travail à faire et je vais le faire. M. Armstrong avait cette détermination-là. Il avait pris l'engagement de servir Dieu. Il faut toujours se rappeler qu'on peut compter sur celui à qui rien n'est impossible. C'est lui qui va nous emmener à terme. Celui à qui rien n'est impossible. Mais si moi, je suis proche, si moi, je le supplie, il veut voir si je suis avec lui de tout cœur, si je m'empresse, s'il y a une hâte en moi, s'il y a un zèle, s'il y a une ardeur, si je considère comme précieux son appel, et le but de l'existence et son aide, l'aide qu'il me promet. Il faut se hâter, s'empresser de revenir à Dieu lorsqu'il y a des moments plus creux. Et il y en a automatiquement. Mais il faut s'empresser de revenir vers Dieu. Allez à Ézéchiel chapitre 18, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 21. Ézéchiel 18, verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, et pratique la droiture et la justice, il vivra, voyez-vous? Ça, c'est sa promesse. Il dit, s'il revient à moi, il vivra, je vais y aider. Et il ne mourra pas. Verset 22, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Et il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, Est-ce que c'est que le méchant meurt? Dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu veut qu'on change pour justement nous donner la vie éternelle. Et entre-temps, nous bénir, nous encourager, nous soutenir, comme sur des ailes d'aigle. Mais regardez le verset 21. Si par contre, le juste, celui qui a commencé à pratiquer la justice, qui a connu Dieu, se détourne de sa justice et commence à commettre l'iniquité, pas par faiblesse, des faiblesses, ça nous arrive tous, mais si la personne commence à repratiquer des choses anciennes et à les garder, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Est-ce qu'il va continuer? Toute sa justice sera oubliée. Autrement dit, tout ce qu'il a fait depuis le début, ça sera effacé du tableau. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité. Voyez-vous, c'est pas une faute par faiblesse, là. Il s'est livré à l'iniquité. Moi, je vis comme ça. C'est pas un homme qui va me dire quoi faire. C'est pas un ministre de Dieu qui va me dire quoi faire. C'est pas l'Église de Dieu qui va me dire quoi faire. Dans le fond, ça veut dire une chose. C'est pas Dieu qui va me dire quoi faire. Quand on entend ce genre de raisonnement-là, ça fait frémir. Parce que, en arrière de ça, il y a le grand patron. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, et à cause de cela, il mourra. Il mourra. Gardez votre place ici, je vais aller dans Matthieu 22. Matthieu 22. C'est une parabole que le Christ a donnée qui a rapport avec ça de façon impressionnante. Matthieu chapitre 22. C'est la parabole du festin des noces. Le festin des noces. Matthieu 22, versets 1 à 2 et 2. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux, donc la famille de Dieu, le gouvernement de Dieu qui sera établi sur la terre, est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Allez au verset 9. Je ne lirai pas tout le contexte, vous pourrez le faire vous-même. Verset 9. Il avait demandé au point de départ, il avait lancé des invitations, plusieurs ont refusé et tout ça. Après ça, le roi dit, « Allez donc dans les carrefours, au coin des rues, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » C'est Dieu qui appelle, si on le sait. Verset 10. « Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra. » Bon, voici les noces. « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu les habits de noces. » Quelqu'un avait été là pendant longtemps, au milieu de ceux que Dieu avait invités. La personne avait été là pendant longtemps, mais n'avait pas revêtu les habits de noces. Les habits de noces, c'est le fin lin des saints, qui sont les œuvres de justice des saints, de marcher dans ses voies avec miséricorde, avec bonté. Il n'avait pas revêtu son habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres au dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, ça donne à réfléchir. Parce que cet homme-là avait, autrement dit, fait son chemin jusqu'au milieu de la noce du grand roi. Mais il ne lui appartenait pas vraiment parce qu'il n'avait pas revêtu une autre façon de faire. Et tout de suite, il a été identifié et Dieu a dit, « Tu n'as pas d'affaire ici. » C'est exactement comme on vient de lire dans Ézéchiel. Maintenant, retournons dans Ézéchiel. On a vu dans Ézéchiel tantôt que celui qui revient à Dieu, qui s'est repenti, Dieu l'accueille, dit, « Tu ne mourras pas, je vais travailler avec toi, je vais t'aider. » Mais celui qui se détourne après avoir pratiqué la vérité, après avoir connu la vérité, il dit qu'il y a des choses difficiles auxquelles on peut s'attendre. Et le verset 25, maintenant, vous dites, « La voie du Seigneur n'est pas droite, voyez-vous. » Ce n'est pas une bonne façon de faire dans l'Église, ça. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? N'est-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice, celui ou celle qui était là, mais qui se détourne, qui abandonne, qui commence à agir mal, créer de la difficulté, et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Mais vous, toutes nos actions ont des conséquences, qui que ce soit. Toutes nos actions ont des conséquences. Et regardez le verset 27. « Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra et il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux, s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra et il ne mourra pas. Et ça nous ramène au sens des pains sans levain. C'est le temps, frères et sœurs, de revenir à Dieu plus que jamais. Moi, j'ai des choses dans lesquelles je dois revenir à Dieu plus qu'avant. Et je lui demande de m'y montrer au cours de la préparation de ces fêtes et au cours de ces fêtes elles-mêmes. Pour être proche de lui, là, mais vraiment de tout cœur. Pour vivre les fêtes avec zèle, avec empressement. C'est ça, la fête des pains sans levain. À ce temps-ci de l'année, il faut davantage s'examiner. Il faut davantage identifier nos transgressions, nos faiblesses. Et c'est intéressant parce qu'il y a un membre de l'Église qui m'a mentionné cette semaine avoir commencé, dans son examen personnel, à se servir des 10 commandements. La personne a dit, je prends un commandement une journée, mettons, puis je fais une étude là-dessus, je regarde ce en quoi j'ai pu transgresser ce commandement-là et voir ce que j'ai à changer, à améliorer. C'est une des façons de faire. Il y a d'autres façons, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est une bonne façon de procéder. Mais voyez-vous, il faut planifier. Ça ne vient pas à peu près. Comme là, c'est le temps de planifier notre saison du printemps pour les fêtes. Qu'est-ce que je vais étudier? Qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Quand je vais jeûner? Qu'est-ce que je vais demander à Dieu dans mon jeûne? Le jeûne, c'est demander à Dieu de nous repentir, de nous montrer nos fautes. Planifier d'éliminer le levain physique de nos maisons aussi. On a commencé chez nous un peu, dans les pièces où on va plus rarement, là, on a commencé à faire ça, de sorte qu'on ne retournera plus là, on s'en va vers le point zéro, on va finir vers la cuisine. Et bien sûr, on n'achète plus de produits levés, les biscuits, les pains, les gâteaux, et ainsi de suite. Alors, on s'en va vers le point zéro. Et il faut réaliser que c'est un travail, oui. Mais ce n'est pas une corvée. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu, puis il est en train de nous montrer quelque chose. C'est un encouragement pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui est sans signification. Ça veut dire énormément, et c'est lié directement avec notre salut, avec la vie éternelle, avec le gouvernement de Dieu, avec le monde à venir. Et vous savez, même si on fait, je pense que c'est bon que je fasse cette parenthèse-là, même si on fait un ménage comme il faut dans notre maison, pour enlever les miettes de pain, puis enlever le pain lui-même et tout ça, on va avoir des surprises probablement au cours de la semaine. Moi, je vais faire le ménage bientôt dans mon auto aussi, là. Mais on aura des surprises durant la semaine des pains sans levain. On va peut-être trouver quelque chose qui est resté avec du levain. À ce moment-là, il s'agit de le jeter aussitôt, bien sûr, mais il y a une leçon. C'est que spirituellement, il y a des choses qu'on ne voit pas encore dans notre vie spirituelle. Et Dieu va nous les montrer en cours de route. À ce moment-là, on travaillera dessus. Dieu ne nous en voudra pas pour ça, mais il va s'en servir pour nous montrer. Alors, on élimine donc le pain levé, les gâteaux, les biscuits, ces choses-là, et on planifie d'enlever le levain spirituel, tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. Et ça, c'est notre grande priorité. Donc, identifier nos transgressions, pas avoir peur d'identifier nos transgressions. Dire à Dieu, je sais que j'ai transgressé, même dans des choses que j'ignore, montre-moi. Et quand on lit la Bible, quand on prie à Dieu, on découvre des choses qu'on a faites qui étaient contraires à la loi de Dieu. On découvre des faiblesses. Et à ce moment-là, et je reviens là-dessus, je l'ai mentionné rapidement tantôt, il faut prendre les moyens de ne plus les répéter. Sans ça, l'exercice ne sert à rien. Si je ne prends pas les moyens pour ne plus les répéter, ça ne sert à rien. Il faut que je m'éloigne de ce qui peut m'amener à pécher. Voyez-vous? Il faut que je m'éloigne soit des endroits, soit des personnes, soit des situations, des circonstances qui peuvent m'amener à pécher. Pas m'exposer, autrement dit. Vous savez, je prends souvent l'exemple, celui qui a des problèmes avec l'alcool, il ne garde pas son sous-sol plein de boissons. Il s'organise pour qu'il n'en ait pas. Fait que s'il y a une tentation qui vient, il n'est pas proche. Ça lui aide à résister. Comprenez-vous? Et c'est la même chose dans n'importe quoi. Ça, c'est faire les choses qu'il faut, c'est de planifier pour sortir le levain spirituel de nos vies. L'autre élément, puis c'est pas peu de choses, c'est de confesser à Dieu nos fautes. Mais je veux préciser quelque chose ici. On sait qu'il faut demander pardon à Dieu. Mais parfois, on est des petits vites. On est des petits vites quand on demande pardon à Dieu. On a fait telle chose qui n'est pas correcte à sa loi, et on va lui demander pardon. On admet notre faute, puis on repart. Il y a une façon de faire, de demander pardon, qui peut nous aider. Et je pense qu'il plaît à Dieu, c'est d'expliquer en détail à Dieu la faute qu'on a faite. Vous allez voir pourquoi. Si je demande à Dieu pardon d'avoir juste trop parlé, mettons, ou parlé trop vite, ou mettons cet exemple-là. Bon, j'ai demandé pardon, Parce que moi, ça, dans ma tête, ça fait référence à une circonstance que j'ai vécue. Et je sais que j'ai manqué mon coup parce que soit j'ai exagéré ou soit j'ai révélé quelque chose de quelqu'un que j'aurais pas dû révéler ou des choses comme ça. OK? Mais si je dis à Dieu juste, je te demande pardon d'avoir mal parlé. Bon, j'ai pas précisé. Mais si je dis à Dieu, dans telle circonstance, Père, là, regarde, il est arrivé telle chose, il y avait telle personne, puis à ce moment-là, j'ai ouvert ma bouche que j'aurais pas dû ouvrir, et puis j'ai laissé sortir quelque chose que j'aurais pas dû laisser sortir sur une autre personne, ou j'ai ainsi de suite. Voyez-vous, si j'explique ça à Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça m'aide, moi, à prendre conscience de ma faute, à la voir telle qu'elle. Et en même temps, ça m'aide déjà à imaginer un moyen que moi, je dois prendre pour l'éviter, cette chose-là. Voyez-vous? Vous dites, la prochaine fois que ça va arriver, Dieu, là, aide-moi à réagir de telle façon dans cette circonstance-là. Voyez-vous, le péché devient comme plus réel, et on l'explique à Dieu, on lui demande son aide en détail, et on voit tout de suite comment on pourrait réagir pour changer ça. Vous savez? S'il y a des choses qui apparaissent à la télévision, même durant les bulletins de nouvelles, qui sont des choses de nudité ou de violence extrême ou de choses comme ça, bien, la prochaine fois, là, quand ça apparaît, change de poste tout de suite. Pour aller à l'autre station puis revenir finir les nouvelles. Puis s'il y en a trop, je prendrai les nouvelles sur Internet où il y en a moins. Voyez-vous? Alors, on peut, comme ça, se prévaloir de nos confessions à Dieu pour que ce soit vraiment efficace et que ça nous aide à nous sentir proches du Dieu de miséricorde. Et si je fais ça, vous allez voir, si vous le faites, on sent que Dieu nous reçoit, nous aide, nous accompagne. Et on voit comment ne pas répéter. Et ça nous encourage. Il y a une autre chose aussi qu'il faut faire durant la période de la fête des pains sans levain. C'est de s'encourager. Parce que ça semble négatif au point de départ. Dans un sens, ça l'est aussi, de voir les choses qu'on n'a pas réussies. Mais regardez aussi, puis dites merci à Dieu, des choses que vous avez réussi à faire cette année. Vous avez réussi à faire des choses. Vous êtes vivant, vous avez bougé. Si vous êtes à l'église et si vous êtes en train d'obéir à Dieu, vous avez réussi à faire des choses. Dites à Dieu merci de ce qui vous a aidé dans telle ou telle circonstance. Voyez-vous? Et ça vous fait réaliser qu'il y a un certain chemin de fait. On n'est pas rendu, mais il y a du chemin d'accompli. Et Dieu veut qu'on le voie parce qu'il veut qu'on soit encouragé. Parce qu'on a beaucoup d'épreuves, particulièrement avant les fêtes du printemps. Et cette année, je réalise qu'il y a plusieurs dans l'Église qui ont toutes sortes d'épreuves. Que ce soit la maladie, que ce soit lié à l'emploi, que ce soit des problèmes de famille ou autres. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais Dieu avait pas dit que ce serait facile non plus. Mais il avait dit, quelles que soient les circonstances, il faut que je sois en premier. Hein. Faut pas que ma vie passe en premier, ni ma famille, ni mon travail, ni c'est Dieu en premier. Il dit, si vous faites ça, je vais être avec vous. Parce qu'il faut pas que ces choses-là nous ralentissent. Il faut pas que ça nous fasse douter de Dieu et il faut pas que ça nous fasse oublier notre engagement de baptême. Faut toujours qu'il reste là, lui. C'est le contrat le plus important que vous avez signé au cours de votre existence et que vous ne signerez jamais. Pourquoi? Parce qu'il engage une vie éternelle. C'est pas peu de choses, là. Il engage une vie éternelle. Faites confiance au rocher des siècles, à celui qui délivre ceux qui persévèrent, quelles que soient les circonstances. Ça aussi, c'est une promesse. Et on peut la réclamer. Dire à Dieu, je suis dans des circonstances difficiles, mais tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Ésaïe 41. Ésaïe chapitre 41. Versets 10 et 11. Ne crains rien, car je suis avec toi. Rappelez-vous de ça au moment de la Pâque des pains sans levain. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Si on se repent, si on demande l'aide de Dieu, si on est zélé pour célébrer ses fêtes, on n'a pas à être inquiet de rien. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, et ainsi de suite. Regardez le verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Rappelez-vous d'une chose. J'ai pris le temps de penser à ce point-là parce que ça m'a encouragé quand ça m'est venu. Dieu est présent de façon particulière dans ses fêtes. C'est pas pour rien, parce que ce sont les jours que lui-même a décrétés en fonction de son grand plan de salut pour l'humanité. Et Dieu est présent de façon particulière dans ses fêtes. Et si nous sommes présents dans ses fêtes, par empressement, par zèle, par hâte de développer le caractère de Dieu totalement, nous allons être fortifiés. Nous allons être réjouis, encouragés et stimulés spirituellement. Nous sommes dans un temps précédant la Pâque et les pains sans levain. Bien sûr, il faut sortir le levain physique. Tous les membres baptisés de l'Église doivent le faire. Et ceux qui ne sont pas baptisés doivent le faire aussi, parce qu'ils sont en préparation pour le baptême. On va prendre la Pâque. Ça s'adresse bien sûr aux baptisés. On va prendre la Pâque avec un repentir réel. Et pour le faire, on doit ne pas garder aucune amertume, aucun ressentiment. Et nous devons pardonner et laisser tout derrière, comme j'ai expliqué tantôt, pour prendre la Pâque dignement, comme c'est mentionné, comme l'apôtre Paul l'explique. Et à ce moment-là, on peut prendre la Pâque, on la prendra avec reconnaissance, avec joie envers le sacrifice de Christ, puis envers la bonté de Dieu. Après ça, on va célébrer la soirée mémorable. Et ce sera un repas joyeux de souvenirs. Et c'est commandé, ça aussi, dans la Bible. Je ne m'y reporterai pas, vous connaissez sans doute l'endroit. On doit célébrer cette soirée à l'honneur du jour où Dieu a sorti la nation d'Israël d'Égypte. Et ça célèbre aussi le moment où Dieu vous a appelé, vous, et m'a appelé, moi. Et c'est pour ça que lors de la soirée mémorable, quand on prend ce grand festin ensemble, c'est qu'on se rappelle les choses que Dieu a fait pour les Israélites, pour nous, quand il nous a appelés. On échange là-dessus. On prend le temps d'écouter comment les autres sont venus à l'Église, qu'est-ce qui s'est vécu au cours de l'année, qu'est-ce qui s'en vient pour l'Église, qu'est-ce que Dieu fait pour bénir son Église actuellement. C'est un joyeux repas. Et après ça, on entre, quand on prend le repas des pains de la soirée mémorable, on est déjà à l'entrée du premier jour des pains sans levain. Et là, c'est la semaine des pains sans levain, où chaque jour, on mange un peu de pain sans levain, le pain de la pureté, le pain de la vérité, le pain qui symbolise le Christ parfait qui n'a jamais péché. Notre exemple, comme qui on veut devenir. Alors écoutez, cette période-ci de l'année, si on la fait comme Dieu nous demande de la faire, avec empressement, avec zèle, avec appréciation, va nous aider à prendre davantage conscience, et ça va nous motiver à prendre davantage conscience qu'on doit sortir du monde et qu'on doit sortir le monde de nous. Il reste encore des choses mondaines en nous qu'on doit éliminer. Et c'est pour ça que le Christ dit dans Apocalypse 18, verset 4, « Sortez du milieu d'elle, sortez de cette société, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux qui approchent. » Parce qu'à un moment donné, Dieu va tracer la ligne. Et ceux qui lui appartiennent, Dieu va les mettre à part, selon ses promesses. On se présente aux fêtes du printemps, personnellement, en tant qu'une offrande personnelle à Dieu. Nous devenons cette offrande-là. Parce que, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 12, soyez des sacrifices vivants. Pas des sacrifices morts, des sacrifices vivants. Nous vivons pour Dieu, nous vivons de plus en plus selon Dieu, avec sa puissance. C'est ça, être un sacrifice vivant qui est d'agréable odeur à Dieu. Vous lirez Romains 12, versets 1 et 2. C'est clairement expliqué là-dedans. Vous savez, au moment de ces fêtes, Dieu évalue le cœur de ses serviteurs. Dieu évalue le cœur de ses serviteurs. Dans Ésaïe 66, verset 2, c'est écrit « Voici sur qui je porterai mes regards. » Ésaïe 66, verset 2. « Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. » C'est encore celui qui se repent, ça. « Qui souffre d'avoir transgressé les lois de Dieu. » « Qui regrette d'avoir causé la mort du Christ. » « Sur celui qui craint ma parole. » Je ne vous apprends rien. Dans les temps où nous sommes rendus, à l'approche du retour de Christ, nous vivons dans des temps de plus en plus confus et difficiles. Mais si nous persévérons dans le repentir, si nous persévérons à revêtir le Christ, Dieu a promis de nous protéger, de nous bénir, de nous faire réussir notre cheminement spirituel. Il va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ. Ça, c'est notre but. Lui, il l'a en tête et nous, il faut le garder en tête pour ne pas perdre de vue la splendeur de ce qui nous attend, la grandeur de notre appel et l'importance de notre engagement. Alors, il faut se préparer avec empressement et avec zèle à célébrer ces magnifiques fêtes du printemps. Ce qui va nous apporter, si on le fait comme Dieu nous montre de le faire, une magnifique paix d'esprit, un repos, et qui va créer dans vous et dans moi la joie des rachetés qui avancent vers la délivrance totale.